Bonjour, nous sommes sur Allegre FM 93.1 et ce matin nous allons parler de Gustave Courbet. Je suis avec Anne-Sophie Poirot, Nicolas Manuel Gudel et Pierre Chesset qui viennent de participer à la réalisation d'un livre absolument impressionnant qui est une monographie complète parue dans la collection Les Cahiers Dessinés sur Courbet dessinateur qui comporte l'ensemble des dessins connus à l'heure actuelle de Gustave Courbet. Et donc ce livre a été fait sous la direction de Nicolas Manuel Gudel qui est à ma gauche et je vais commencer en lui demandant quelle était l'occasion du livre, donc parce que je crois qu'on fête un bicentenaire, quelles étaient ses ambitions et quel est-il ce livre? Comment se présente-t-il et que représente-t-il par rapport aux différents livres qui ont paru sur le sujet jusqu'à présent?
Oui, merci de votre invitation. Effectivement, ce livre a paru à l'occasion d'un bicentenaire, qui est donc le bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet, qui fait l'objet de célébrations tonitruantes en Franche-Comté principalement, et qui demandait de se poser de nouvelles questions, d'ouvrir de nouvelles voies pour la recherche et pour la compréhension de l'œuvre de Gustave Courbet. Et au commencement, ce projet, c'était une exposition qui devait s'articuler autour d'un corpus de dessins retrouvés qu'il fallait étudier pour la première fois. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte en travaillant, et c'est là que ça devient véritablement intéressant, qu'il n'y avait pas vraiment de littérature. Que tout le monde a toujours estimé que Courbet n'accordait pas d'intérêt au dessin, qu'il ne maîtrisait peut-être même pas la technique, qu'il y avait une sorte de désintérêt pour la chose dessinée, qui était permanente. Et donc, on s'est dit, là, il y a un problème, il faut comprendre pourquoi on a toujours estimé que Courbet ne dessinait pas ou dessinait mal. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que cette idée était une idée complètement préconçue, qui remonte au 19e siècle déjà, et qu'en réalité, Courbet, c'est un excellent dessinateur, que les quelques rares feuilles qui étaient connues sont des feuilles d'une virtuosité technique exceptionnelle, en tout cas dans la technique du fusain. Et on s'est mis à chercher, à comprendre, à rassembler. Et plus on avançait dans ces recherches, de nouveaux dessins ont surgi. Et de fil en aiguille, c'est devenu un travail qui a pour ambition, et je crois que ça tombe bien à l'occasion d'un bicentenaire, de réévaluer la place du dessin dans la vie et l'œuvre de Gustave Courbet, à ses débuts et plus tardivement, puisqu'il dessine même pendant sa période d'exil en Suisse, et comprendre comment ce dessin a participé, avec quelle fonction, avec quelle utilité, de la construction de son œuvre.
Et donc, il y a ce côté complet, donc c'est une monographie très complète. Il y a des dessins inédits dedans. Il y a une discussion sur les attributions.
Il y a passablement de dessins inédits. Ensuite, il n'y a pas tout, parce qu'il y a beaucoup de dessins dont nous avons connaissance, mais qui sont introuvables, dont on a des images de mauvaise qualité, et c'est pas du tout l'esprit de l'éditeur, les cahiers dessinés, d'imprimer des mauvaises images. Et donc, on a fait vraiment un choix qui est représentatif à la fois des dessins virtuoses, des dessins les plus mauvais, hein, quand il est jeune, il dessine quand même franchement mal, et après ça s'améliore. Et puis aussi des dessins qui, eux, sont plutôt sujets à discussion, qui doivent être discutés, parce qu'il y a un véritable besoin chez Gustave Courbet de s'interroger sur la notion, ne serait-ce que d'authenticité en soi, surtout dans sa peinture, je dirais. Mais ça, c'est une autre question. Et toutes ces questions ont présidé au choix des dessins qui sont réunis dans ce volume, par thématique, avec une notice pour presque chaque dessin, dans le but vraiment d'aller au fond des choses.
Et donc là, on pourrait reprendre au début, la question du Courbet dessinateur est donc liée à sa formation. Il est pratiquement autodidacte en fait au niveau... Alors est-ce qu'on peut discuter de ça, mettre ça à plat? Qu'est-ce qu'il en est?
Il se veut autodidacte, il se construit un mythe d'autodidacte qui a appris à partir de ses sentiments et de la nature, comme il le dit lui-même. Mais en réalité, il a suivi plusieurs enseignements, celui du Père Beau à Ornans, celui de Flageolet, qui est un élève autoproclamé en tout cas, de David à Besançon, et puis ensuite à Paris, il a quand même fréquenté passablement d'académies libres, dont celle de Charles Suisse. Il aurait été à un certain moment l'élève de Steuben aussi. Donc je ne crois pas qu'il soit si autodidacte que cela. D'une manière ou d'une autre, il avait besoin d'acquérir une grammaire technique pour pouvoir faire l'œuvre qu'il a faite. C'est quelque chose, bien sûr, qui se complète. Après sa formation, il a cet esprit très indépendant qui fait qu'il va s'affranchir de la tradition, quand bien même la tradition l'intéresse. Il va aussi s'affranchir du romantisme, quand bien même il est fortement romantique. Donc il y a vraiment un apport personnel qui est très très fort, mais qui repose sur une base qu'il a dû apprendre quelque part.
Et donc, on parle de quoi ? De 250 dessins identifiés
Environ à ce jour, oui.
Ouais, 250 dessins. Et donc, par rapport à quelqu'un qui ferait des dessins pour préparer ses peintures, c'est très peu. Si on prend, Degas, si on pense à quelqu'un dont on connaît des croquis préparatoires ou des études au Louvre ou des choses, une activité de dessinateur constante, on est dans un corpus extrêmement minimaliste. Vous êtes d'accord ?
Ah oui, c'est très peu, et c'est justement toute la difficulté d'étudier et de comprendre Courbet dessinateur, parce qu'on a peu d'exemples, un corpus très restreint, comme vous venez de le dire, et donc pour aussi identifier, authentifier de nouveaux dessins, c'est ça qui est particulièrement difficile, parce qu'on a peu de repères, en fait. Et en plus, on a un dessinateur, donc avec Courbet, dont on a peu d'exemples, mais dont on a des exemples aussi très variés. On n'a vraiment pas une main et un Courbet dessinateur. On a vraiment une grande diversité de dessins.
Ah oui, c'est très, très étrange, en fait, comme on a l'impression que c'est des personnes différentes.
C'est ça.
Il y a deux, trois dessins, mais vraiment deux, trois extrêmement réussis qu'on attribuerait volontiers à quelqu'un d'autre, tellement ils sont peu... un plan d'eau, par exemple, qui est reproduit vers la fin du livre, qui est très...
Calme,
très étal. Et on pense à des choses plus tardives. On peut penser, Hubert Robert ou des choses de ce type-là, plus ruinistes comme
ouais,
ça.
C'est
plus,
toute la difficulté plus, du
vraiment
sujet.
Plus tardif et une autre patte, quoi. Ouais,
tout à fait.
Et là aussi, alors il faudrait... On peut discuter un petit peu. On parle à des gens qui, a priori, ne savent pas de quoi et de qui on parle. Donc, on peut discuter de qui est Courbet, de la façon dont il envisage sa peinture, de ce qu'il fait et des transgressions qu'il fait par rapport au genre avec cette espèce de gros ours bougon et sensuel. Arrive et fait des transgressions. Il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est... Champfleury qui parle du génie de l'absence de composition. Et il y a tous ces décadrages où le fait qu'il fasse un format de peinture d'histoire pour un paysage, enfin pour un arbre et tout, et cette absence de composition dans les peintures. Il y a en fait une absence de dessin dans les peintures. Et je suis retourné à Orsay pour les voir, et c'est pas du tout le dessin qui est mis en avant, c'est une espèce de foisonnement de touches, quoi. On a vraiment, on a des moments de miroitement, on a vraiment de la touche, c'est pas le trait qui surgit, je pense que...
Non, tout à fait, et c'est justement cette matérialité de sa peinture qui a fait qu'on a jamais eu l'image, dès le 19e, d'un Courbet dessinateur, parce que ça peinture n'invite vraiment pas à le considérer comme un dessinateur. Ça, c'est presque un contresens de le considérer comme un dessinateur qui s'exprime à travers la ligne. Mais c'est pour ça aussi qu'il est particulièrement habile dans l'art du fusain, qui est vraiment la technique qui se rapproche le plus au final de la peinture et qui lui permet de s'exprimer le plus en tant que peintre. Et il module vraiment les tons comme il modulerait les couleurs quand il utilise le fusain.
Mais j'ai là, justement, sur la page où je suis, qui s'appelle Arbre, j'ai une étude d'après nature vers 1860, fusain et réau gris vert. Et elle miroite. Là, je parlais de miroite. On a un effet Turner, on a un effet atmosphérique très très fort. Et on n'a pas de trait du tout. On a de la touche, quoi. On a quelque chose un peu gras qui s'est étalé sur le papier. On a une impression de velours, une impression de feutre.
Une esthétique de la tâche, presque.
De la tâche, absolument. On a quelque chose d'abstrait. Oui, Pierre.
Indépendamment de ça, là, je faisais référence avant à Hubert Robert, des choses beaucoup plus précoces par rapport à Courbet, des choses de la fin du 18e, Runis, là tu fais allusion à Turner, qui est quand même tout début du siècle. Il y a quand même une grande différence par rapport à eux, c'est que le cadrage est différent. Chez Courbet, on a très souvent un cadrage extrêmement resserré, avec des vues plongeantes ou semi-plongeantes, comme ici le dessin que tu as sous les yeux. Et ça, c'est une chose totalement nouvelle, je dirais, parce que la manifestation de son refus de l'académisme, de faire un paysage avec un point de fuite, avec des coulisses, où tout les couleurs sont de plus en plus dans les bleutés pour faire une perspective atmosphérique, etc. Ce n'est pas du tout son intérêt. Lui, il s'intéresse à la structure particulière. Et il dépeint l'arbre comme un espèce de portrait. Et les cadrages sont extrêmement originaux.
Je suis d'accord. Hein. C'est ce que le passage que j'avais sélectionné, c'est la remise des chevreuils au ruisseau de Plaisir-Fontaine 1866. Il n'est pas possible d'y entrer ou d'en sortir. L'artiste n'a fait qu'un seul plan, les fonds n'ont aucune perspective. Ça, c'est du Champfleury, c'est ce que tu viens de dire.
Exactement. Et d'autres témoignages de Courbet rapportés où il dit ce que c'est bourgeois, le point de vue. C'est donc une volonté aussi de refuser le pittoresque.
Absolument. Alors, on a ça dans sa correspondance. À un moment donné, oui. il insulte quelqu'un qui veut l'emmener voir un coucher de soleil. Oui. On est anti-kitsch, on est anti-poster, on est anti... je pourrais prendre un exemple, mais là, c'est pour le plaisir. Je vois un arbre de Constable... qui est antérieur, et donc on n'a pas du tout la même chose, parce que chez Constable c'est un nœud d'arbre, donc on ne voit que le nœud de l'arbre, il est pris en plan très rapproché, hein. C'est une espèce de selfie d'arbre, mais en plan très très rapproché, mais on voit tellement bien la structure, c'est tellement décidé, et les impressionnistes vont aller voir cette peinture et d'autres peintures de Constable à Londres. Et donc, on a pas cette impression chez Courbet, effectivement. On a une impression d'animisme aussi. On a une impression de sensualité, de cérémonie, comme ça, d'un truc un peu païen. Et puis, il y a ce plaisir, la loupe, par exemple. Enfin, toutes les représentations qu'on a d'une nature quand même pas spectaculaire du tout. Et... ça me fait penser, j'ai pas du tout pensé en lisant le livre et en y pensant, qu'il y aurait avec les autoportraits peut-être une façon de définir son rapport au dessin, parce que là il est plutôt attentif et il a plutôt tendance à soigner beaucoup les détails pour que ça soit assez flatteur ou que ça rende bien l'idée qu'il se fait de ce qu'il veut rendre, un Courbet mélancolique ou un Courbet épanoui ou un Courbet dominateur ou un Courbet vainqueur. On a quand même beaucoup de représentations Courbet par Courbet, n'est-ce pas?
Oui, parce que Courbet fait partie de ces artistes qui considèrent que l'autoportrait est une manière d'écrire leur autobiographie. Et je crois que c'est vraiment flagrant, ne serait-ce qu'en partant de l'atelier du peintre, qui est donc au musée d'Orsay dans toute sa splendeur, maintenant qu'il a été merveilleusement restauré. On voit enfin ce qu'il y a sur ce tableau, ce qu'on rêvait de voir dans ce tableau. Et là, il se place tout de même dans un tableau qui est absolument énorme, que j'aime bien comparer au sacre de Napoléon. Il se représente au centre de la composition, entouré d'amis et d'ennemis, dans un format qui n'est pas du tout prévu pour l'autoportrait. Et plus provocateur encore, il se représente en train de peindre un paysage. Et là, il y a un lien très fort entre l'autoportrait et le paysage qui instaure chez Courbet, finalement, le sens profond qui conduit l'ensemble de son œuvre, qui est, si on regarde bien, même des tableaux de figures plus allégoriques, il y a toujours le paysage quelque part qui nous rappelle à la terre, en quelque sorte. Et vous parliez tout à l'heure de paysages qui sont peut-être pas spectaculaires. Moi, je crois que pour sentir la spectacularité des paysages de Courbet, il faut aller sur place. Et quand on arrive, c'est une expérience qu'on a faite il y a pas longtemps avec Anne-Sophie, quand on arrive aux sources de la Loue, on se sent... D'abord, on n'arrive pas vierge d'expérience, puisqu'on a vu Courbet. Et lorsqu'on est face à ce trou béant, on a presque envie de se laisser avaler par la nature. Il y a ce besoin de vivre une expérience extrêmement intime, une communion profonde avec la nature qui fait que quand on ressort de ce lieu, on revoit Courbet dans sa vérité encore plus absolue. Et dans la spectacularité, non pas d'un paysage sublime ou grandiose, mais du détail. Et je crois que c'est ça qui est extraordinaire chez Courbet, c'est qu'à travers un détail, il arrive à nous faire sentir la grandeur de la nature. L'autoportrait, c'est exactement la même chose, parce qu'il ne les fait pas n'importe quand, il les fait à des moments précis, dans une suite stratégique. Parfois, il en fait des répliques qui nous racontent aussi quelque chose, selon le moment où il fait cette réplique. Et là aussi, à travers des détails, c'est-à-dire des tranches de salami dans sa vie, il arrive à nous raconter sa vie entière. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans sa peinture.
Je pense que c'est une des caractéristiques de Courbet, effectivement. C'est cette conscience qu'il a de lui-même. Et c'est cette espèce de construction de lui-même. Il m'a fait beaucoup penser à Warhol. Déjà parce qu'il se prend en charge, parce qu'il loue un endroit pour s'exposer, parce qu'il fait payer une entrée. Enfin, c'est quand même quelque chose de fou. Il invente cette médiation, cette publicité de lui-même, et il a un rapport. On a aussi la correspondance avec ses parents, dans laquelle il est toujours bon enfant, mais très vantard, comme ça, à la limite de la vanité tout le temps. Et donc c'est vraiment un personnage formidable qui est tout à fait moderne en cela, qui n'a pas de fausse pudeur, il n'a pas du tout le côté curé, il n'a pas du tout le côté sacerdotal de l'art, etc. Tout. Il a un côté nature morte, très 17e siècle, le marché de l'art, très conquérant, très, très médiatique. Il est là, quoi. Il est pleinement où il est, et il habite les choses qu'il fait. Et c'est un gros ours. Et alors, c'est ça que je voulais dire aussi, parce que je disais, on parle à des gens qui ne savent pas de quoi on parle. Il y a un phénomène qui est extraordinaire, c'est la littérature critique sur Courbet. C'est quelqu'un qui a suscité un nombre de caricatures et de textes sur lui absolument incroyables, d'une extrême à l'autre, et parfois d'une bassesse totale. Par exemple, je trouvais qu'il y avait un côté bagatelle pour un massacre dans les termes qu'utilisait Alexandre Dumas-fils quand il parle de Courbet. C'est absolument sidérant. Il parle de vermine. Enfin, on a déjà tout ce vocabulaire qu'on aura au XXe siècle totalement injurieux. Et lui, il plane là-dessus quand même, il s'en sort assez bien. Puis il a son corps, quoi. Il a cette espèce d'abondance de choses qu'il mange, qu'il boit. Je pense son rapport à ses modèles, qui devait quand même être très, très charnel. Et il y a quelque chose de...
Là, je crois qu'il
c'est un personnage, quand même.
Bien sûr, mais il faut distinguer. Là, il y a quand même deux choses dans ce que tu viens de dire. Alexandre Dumas-fils, c'est après la Commune. Et là, il y a une animosité, qui est terrible. Auparavant, effectivement, il a alimenté lui-même. Quand il revient de Munich où il a exposé ses œuvres, il a reçu la Croix du Mérite. Il est extrêmement fier. Il se vante d'avoir bu des bières à n'en plus finir avec les peintres allemands, etc., d'avoir eu des succès incroyables. Il y a après des caricatures qu'il représente avec un boc de bière énorme en train de peindre. Il trouve ça tout à fait normal. Il est même flatté qu'on le caricature.
Du moment qu'on parle de lui, c'est dans ce sens-là que je me parlais de l'aspect warholien.
Il se met en scène. Tandis que, alors, après la Commune, ça devient méchant.
Ouais, je suis d'accord.
Ça devient cruel. Des légendes qui courent sur lui aussi, qui sont à la limite du racisme, des choses qui sont très désagréables.
Mais il refuse des honneurs, par exemple, on veut le décorer, il refuse ses décorations, et
l'État
ça fait aussi partie de cet aspect médiatique dont je parle. Il y a, il y a une certaine franchise, et en même temps...
Il y a une stratégie.
Il y a une stratégie.
Voilà, il est
toujours très lucide, il s'auto-construit. Et c'est assez remarquable, cette façon de se prendre en charge.
Il parle lui-même de
c'est une
de
force
tactique.
De la nature.
Ouais, il parle lui-même de tactique dans sa correspondance. C'est révélateur de toute sa stratégie.
Il y a une phrase somptueuse.
L'État est incompétent en matière d'art, dit-il, écrit-il, pour refuser la Légion d'honneur. Ce qui est quand même... C'est à la fois une posture, mais il y croit vraiment.
Ça rejoint le fait de ne pas admettre d'avoir été formé. Donc on est en dehors des clous, on est, oui. C'est quand même encore une vision de l'artiste romantique, mais après le romantisme, tout le monde a une vision de l'artiste romantique qui existe encore
politique.
Aujourd'hui.
Je crois que là, il ne faut pas oublier que
tu lui prêtes une conscience politique.
Tout
toi.
À fait, ah, c'est beau, tout ça. À fait, et je pense que c'est extrêmement important, ce moment, c'est contre Napoléon III. Je veux dire, là, il y a cette volonté. Et d'ailleurs, il va se brouiller avec une femme superbe, Marcello, la sculptrice, à cause de son amour pour Napoléon III et sa haine de lui pour Napoléon III. Il y a toute une série d'attitudes comme ça qui sont orienté politiquement très clairement.
Et dans la correspondance, on trouve d'ailleurs cette phrase « Je dois m'affranchir des gouvernements » ou « Si je voyage autant, c'est parce que je fuis ce gouvernement dans lequel je ne suis pas en honneur, etc. » Il y a vraiment cette opposition, même le chêne de Flaget, qui est la représentation a priori extrêmement banale d'un arbre, ou même pas d'un arbre, d'une partie d'un arbre bien ancré, enraciné dans le sol de sa Franche-Comté natale, c'est un tableau à travers lequel il montre sa propre opposition à Napoléon III, en faisant allusion à une toute autre histoire, qui est l'opposition de Vercingétorix à Jules César. Mais il y a cette idée que même à travers des œuvres qui sont a priori anodines, il s'oppose à une forme de gouvernement qu'il ne reconnaît pas et qu'il ne respecte pas non plus.
Alors il y a quelque chose de très intéressant quand même dans cette image que l'on a de Courbet, c'est la publication de la correspondance qui intervient pour les Français, c'est de 96,
hein,
parce que ça avait été publié en anglais quelques années auparavant, mais les Français évidemment n'en ont pas pris connaissance. Mais à partir de 96, on commence à changer d'attitude face à Courbet, parce que jusque-là, il y avait quand même les tenants de « c'est un grand peintre, mais quel homme, c'est très limite, c'est un petit cerveau, c'est un rustre, il boit des verres, c'est tout ce qu'il sait faire, il est ivre en permanence, etc. » Mais quel peintre, superbe, René Huyghe, l'Académie française, là j'avais une citation, ça vaut la peine, « il n'en reste pas moins avec trop d'évidence que l'homme, pas le peintre, était d'une intelligence courte et trop vite satisfaite, de sensibilité bornée et sans vraie profondeur, et que l'une et l'autre étaient sans mystère et sans révélation, sans rien de ce qui fascine chez les génies supérieurs. » Voilà, René Huyghe, l'Académie française, pendant très longtemps, il y a eu les grands historiens de l'art reconnus, considéraient Courbet un grand peintre, mais un idiot. Et là, à partir de la publication de la correspondance, ils sont obligés de revoir leur copie, parce que la correspondance révèle un type qui est d'une sensibilité incroyable, qui passe d'un moment d'exaltation et de vantardise à un moment touchant de sensibilité face à sa famille, face aux événements, de quelqu'un qui est engagé politiquement, etc., et qui a des idées politiques, pas seulement des actes et des paroles. Donc là, il y a un tournant.
On peut dire aussi là, ils étaient très peu, ils ont été 72, qu'un authentique situationniste, qui s'appelle Timothy Clark, a écrit un livre sur Courbet. Et donc, il a aussi toujours eu ses fans, et des fans énamourés, qui ont vraiment travaillé très profondément sur la représentation des casseurs de pierre, du rapport avec l'image d'Épinal, de ce que c'est. On a quelqu'un qui arrive de province avec zéro légitimité, avec aucune formation académique de quelque type que ce soit, qui n'a pas fait ses humanités, qui n'a pas de culture livresque, qui n'a pas un rapport formidable au livre. Vous allez me dire qu'il lit, mais c'est quand même pas... C'est pas un intellectuel, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui arrive à se faire une place et qui...
Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que, puisque tu parles des débuts, fracassant l'entrée au salon. Le salon, il faut rappeler pour les auditeurs que le salon, c'est le seul endroit où un peintre peut se faire voir et donc où il va trouver des débouchés pour sa peinture. Le salon, c'est quelque chose de très important. Et là, il présente ses contemporains paysans de Ornans, dans des formats qui sont réservés d'habitude à la peinture mythologique, à la peinture d'histoire, justement, à Napoléon III et compagnie. Et tout d'un coup, c'est les paysans de retour de la foire qui sont présentés dans ces formats-là, aux côtés des grands tableaux mythologiques et historiques. Et c'est ça la force de Courbet, et c'est ça qu'il fait connaître, et qui va susciter évidemment des débats sans fin sur la légitimité de présenter des gens du peuple dans des formats aussi grands que les princes et les dieux de l'Olympe.
Et justement, là, je crois que ça tient aussi d'une culture un peu livresque. J'aime bien vous contredire ce matin, peut-être. Toujours est-il qu'au Collège Royal, il va étudier la philosophie. Il existe d'ailleurs des cahiers de philosophie de Gustave Courbet qui ont été publiés récemment. Et donc, il n'en a certainement pas une maîtrise complète. Il n'est certainement pas philosophe. On le voit bien dans ses échanges avec Proudhon, par exemple. Toujours est-il qu'il a cette culture qui l'accompagne, qu'il charrie avec lui, et à Paris, il va quand même fréquenter la bohème, il va fréquenter de grands écrivains, pensons à ne serait-ce qu'à Baudelaire, Champfleury, des écrivains de chez lui, comme Max Buchon. Il va être en correspondance brièvement, mais en correspondance tout de même avec Victor Hugo, qui est de Besançon.
Donc Vallès, Jules Vallès.
Jules Vallès, bien sûr, dont il va même faire le portrait. Donc il y a toute une noria d'écrivains qui accompagnent son existence. Et à Paris, il va fréquenter la brasserie Andler, il va fréquenter des gens qui sont très impliqués dans le monde de la petite presse, tout ce milieu de la bohème post-romantique, j'ai envie de dire, hein, à la suite de Nerval, donc Henri Murger et compagnie. Là, il y a vraiment une sorte, c'est quelqu'un qui va fréquenter par exemple Trapadou, qui est l'un des modèles pour les personnages des scènes de la vie de Bohème, qui donnera naissance plus tard à l'opéra La Bohème. Donc il y a vraiment une proximité qui peut-être sans lire, hein, ça ne veut pas dire que Courbet lit tous ces écrivains-là. Mais en les fréquentant, il a une proximité avec leurs livres, en quelque sorte. Et je pense que ça correspond assez bien à ce que nous disait Pierre, cet intérêt pour les gens de la campagne, les gens de son pays, son attachement au territoire, qui correspond à une certaine littérature qui est en train d'apparaître à cette époque, une littérature bien sûr réaliste, mais aussi...
George Sand.
George Sand, par exemple, mais aussi une sorte de littérature touristique avec une volonté du 19e siècle, de ce moment-là, du 19e siècle en particulier, de faire une sorte d'inventaire du territoire et de s'attacher à décrire un certain nombre de régions, ce qui explique peut-être aussi l'intérêt que Courbet peut voir à peindre certains lieux. Parce que si on voit les lieux qu'il choisit, il les choisit avec une certaine stratégie. Et qui est une stratégie touristico-littéraire. Et c'est là que ça devient intéressant de voir à quel point cet homme qui est de toutes les transgressions, esthétiques, politiques, artistiques, morales, tout ce qu'on veut, il va être aussi un homme profondément ancré dans son époque.
On va faire une petite pause musicale.
Between violations elsewhere and in our parks. Not only murder and torture in the third world, wherever that may be, are offenses against human rights. The same goes for the dictatorship of the economy in the Three West. There are no death squads over here, but we have a system that shelves and excludes people on a large scale. And we won't change this, as it would cost too much. We're very universal in respecting human rights, but we do not make them reality. We misuse the language of human rights to shore up our system, for human rights are all a fashion.
donc, je lâche de Montapierre, je sais qu'il s'est particulièrement intéressé à cet aspect-là. Courbet rencontre François Sabatier, un propriétaire terrien, essayiste et traducteur, personnalité éminente du Languedoc, lorsqu'il se rend à Montpellier en 1854 à l'invitation de son ami et mécène Alfred Bruyas. Celui-ci lui présente ce fervent défenseur des théories de Charles Fourier, qui avait publié une critique admirative des œuvres de Courbet exposées au Salon 1850-51, dans lequel il louait sa peinture démocratique et son art populaire. Donc Fourier aimait Courbet. Est-ce que tu peux nous parler de ça?
Alors écoute, la descente au sud de Courbet, c'est la découverte du sud de la Méditerranée, etc. C'est grâce à Alfred Bruyas, son mécène, qui va lui acheter un certain nombre d'heures, qui est à l'origine de ce tableau que tout le monde connaît, « Bonjour, Monsieur Courbet », ou « Courbet se pinge
avec une juif ombre.
Errant en train de saluer son mécène ». C'est à cette occasion qu'il rencontre, grâce à Bruyas, qu'il rencontre François Sabatier Unger. On dit toujours Sabatier Unger pour le distinguer d'autres. Unger, c'est le nom de sa femme, qui était une chanteuse très connue à l'opéra à cette époque. Courbet, évidemment, est très flatté du fait que Sabatier il fait un compte-rendu très positif. Parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été très positifs de ces grands tableaux présentés en 50-51 au salon. Et donc là, évidemment, le fait que François Sabatier soit proudhonien, Courbet connaît Proudhon, évidemment. Bon, ça c'est tout un développement. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste des rapports de Proudhon avec Courbet, mais enfin, vous savez que Proudhon a écrit un ouvrage sur Courbet, et Courbet est très flatté qu'on s'intéresse à sa peinture, évidemment. Ce n'est pas les seuls rapports qu'il a avec des personnages intéressants. Quand il passe en Suisse, à Genève, on le sait moins, il a passé en Suisse à plusieurs reprises parce qu'il allait voir son ami Max Buchon. Son ami Max Buchon était un anti-impérialiste contre Napoléon III et il avait dû s'exiler à Fribourg puis à Berne. Pour ne pas être poursuivi par la police impériale. Et Courbet va lui rendre visite. Quand il passe à Genève, par exemple, il va chez des amis qui sont des fourriéristes, qui vivent en Phalanstère. Eux, ils disent pas en Phalanstère, ils disent en colonie. Et c'est à cette occasion, puisqu'il y a un dessin magnifique, d'ailleurs, de la dernière période de Courbet, où on voit que Courbet n'est pas du tout... n'a pas la main avachie et molle, comme certains critiques le disent à la fin de sa vie. Un magnifique portrait de ce vieillard qui est un des descendants de la famille Bovy, Marc-Louis Bovy, qui était médailleur. Et donc là, il y a des rapports qui sont entretenus par Courbet toute sa vie avec ces hommes politiques, que ce soit Max Buchon, Proudhon, Chaudet... et tant d'autres puissants. Et donc là, il y a effectivement une chose qui est importante.
Et donc tu dis aussi qu'on a construit une image de la fin de Courbet, qui quitte donc la France pour aller vivre en Suisse, dans un petit endroit qui est au bord d'un lac, et qu'on a construit une image d'un Courbet mélancolique, dépressif, alcoolique, qui laisse pourrir devant lui ses natures mortes, qu'on a construit toute une légende. Et il s'avère que, d'après toi, cette légende est fausse. Tu peux nous démonter ces clichés qu'on a enfilés autour de ce Courbet finissant?
Alors, il y a quand même une part de vérité. Je veux dire, Courbet a toujours été mélancolique. C'est pas que s'il cesse d'être mélancolique. Les déboires de la commune, le procès, le fait qu'on le poursuive, que l'État français veut lui faire payer une facture de 300 000 francs pour reconstruire la colonne Vendôme, tout cela fait que, en plus, il perd sa sœur. Il a il n'est pas très bien. Le fait qu'il ait passé en prison un certain temps à la suite de la Commune l'a rendu encore plus faible. Il souffre d'hémorroïdes, d'hydropisie. Il est encore un peu, évidemment, il a toujours été un grand buveur, donc il est un peu alcoolique, donc il est malade du foie. Il y a une image de Courbet qui est simplement déformée. Parce qu'à côté de ça, ça ne l'empêche pas de vivre. Et donc, pendant la période suisse, on découvre petit à petit, en lisant la correspondance, en s'intéressant aux archives suisses, on découvre qu'il a exposé ses œuvres en Suisse à plusieurs reprises, qu'il a pris des contacts avec la Société des peintres et sculpteurs suisses, qu'il expose dans le Tournus, qui est le salon suisse, si on veut, qui passe de Genève à Lausanne, Lausanne à Berne, à Rau et à Fribourg. Et donc, qu'il est extrêmement actif. Et là, je pense qu'il y a eu une volonté certaine de certains historiens de considérer que, loin de Paris, un artiste n'est plus rien. En plus, pour tous ceux qui sont conservateurs, que Courbet s'est fourvoyé dans la Commune, qu'il s'est trompé, en fait, il a été mal conseillé. Ça, c'est aussi la théorie d'une de ses sœurs, Zoé, qui dit qu'il était mal influencé. Alors que Courbet se défend dans sa correspondance et prend position pour la Commune de manière très claire. Il n'est pas du tout question pour lui d'avoir été influencé. Et il prépare d'ailleurs avec le docteur Édouard Ordinaire, avec Jean Fleury, il prépare sa défense face à l'été français qui est argumentée. Et c'est assez intéressant de voir que dans sa défense, il en appelle à la Suisse en disant « Voyez, en Suisse, il y a eu le Sonderbund, il y a eu aussi une guerre civile, mais il y a eu une amnistie, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une partie qui ont dû quand même payer, mais enfin, il n'y a pas eu d'exaction comme après la Commune. »
Et il fait une fontaine avec il y a une histoire avec un bonnet ferré.
Alors là, il l'offre, parce qu'il vit quand même pendant 4 ans et demi à la Tour de Paix, et il offre à la Commune une statue qu'il nomme Helvetia, avec la croix fédérale à l'échancrure du corsage et un bonnet phrygien. Évidemment, il y a des réactions des conservateurs, parce qu'en Suisse, il y a aussi des conservateurs, c'est un pays fédéraliste, ils s'expriment. Il y a des protestations, et on lui demande, la municipalité lui demande de changer l'écusson fédéral par une étoile et de ne pas appeler la statue Helvetia, mais Liberté. Et ça devient donc une Helvetia en liberté, on transforme, et il l'offre à cette commune. Et c'est évidemment une chose aussi intéressante parce qu'il va en faire de moult reproductions. Hein, il va son plâtre, il va le donner à fondre pour une autre statue à Martigny, qui est d'ailleurs toujours en place. Et semble-t-il, d'après la correspondance, il aurait encore fait d'autres, mais elles n'ont pas été retrouvées. Voilà.
Anne-Sophie, tu veux nous parler de son rapport à la photographie, peut-être ?
Oui, et plus que son rapport directement à la photographie, son rapport à l'exposition, parce que la photographie, c'est là qu'elle vient, qu'elle entre en fait en ligne de compte. Il reproduit ses œuvres, bon, bien sûr ses peintures, mais ce qui nous a intéressé aussi, c'est qu'il fait faire des photographies de certains de ses dessins, notamment toute une série de dessins anticléricaux qui destinent à une exposition à Gand en 1868. Et donc là, il fait faire des photographies de ses dessins qu'il veut exposer à Gand. Il s'exaspère un peu du fait qu'il n'est pas certain qu'ils soient exposés, ils sont potentiellement exposés dans une salle fermée. Pour les voir, il faut faire une demande express. On les cache un petit peu. Mais on voit dans sa correspondance qu'il expose pas en fait les dessins directement. Il expose des photographies de ses dessins parce qu'il veut les vendre. Il veut pouvoir les diffuser. Il demande à ce qu'il y ait un papier et de quoi écrire pour que les gens puissent s'inscrire et acheter les photos. Et c'est donc la même chose qu'il met en place pour sa peinture. Lorsqu'il il réalise ses grandes expositions en 1855 et en 1867 à Paris. Donc, il veut faire des photographies qu'il peut donner et vendre.
Et les signer.
Il les signe et il considère pour lui que c'est vraiment un vecteur de diffusion de son œuvre. Il fait pareil lorsqu'il réalise des dessins qui sont ensuite reproduits dans des revues et des albums, comme l'album autographique, particulièrement en 1867, où il y a 7 de ses dessins qui sont reproduits, mais qui sont en fait des reproductions de peinture. Donc lui, il veut diffuser son œuvre. Il a une vraie stratégie qui met en œuvre. Comme un Warhol dont vous parliez tout à l'heure. C'est vraiment ça, c'est très novateur. Et on ne s'attend pas forcément à ça lorsqu'on commence à travailler sur Courbet, l'ours dont on croit toujours parler, alors qu'en fait, il était très lucide et très intelligent, tout simplement.
Et donc, c'est ça que vous avez appris en faisant ce livre, en travaillant sur le sujet. Ça a été comment, le passage du Courbet avant le travail et après le travail?
Moi, je me suis surtout... j'ai travaillé sur les expositions de Courbet et sur particulièrement les dessins qu'il expose lui-même en 1855 et 67 notamment. D'abord un petit peu au salon, mais ça prend pas le dessin pour lui au salon en 48 et en 49. Donc il renonce à en envoyer au salon. Il préfère se focaliser sur les grandes machines, la grande peinture, comme il dit lui-même. Mais par contre, dès qu'il organisera une exposition personnelle, qu'il parle d'exposition complète, il n'envisage pas ses expositions sans montrer aussi des dessins. Et pour moi, ça, c'est très révélateur du fait que le dessin fait partie de son œuvre au sens large et que jusqu'ici, on a tenu son œuvre de dessinateur à l'écart. Et je pense que c'est important de remettre cette pratique-là à sa juste place. C'est pas comparable. À Courbet dessinateur n'est pas comparable à Courbet peintre, c'est certain, mais il existe bel et bien.
Je viens d'avoir une idée, mais je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Est-ce que ça aura un rapport avec le prix? Le prix des œuvres, peut-être que c'est comme quand on fait une exposition et qu'on vend l'affiche.
Vous voulez dire le prix des dessins?
On ne sait pas. Par rapport au prix d'une peinture?
Ouais. On ne sait pas. On n'a pas d'informations sur des dessins qu'il aurait vendus, ni à quel prix. On n'a aucune information. Il en parle peu dans sa correspondance. Je pense qu'une assez grande partie est restée dans son fonds d'atelier, qu'il les a gardés. Oui, je pense qu'il les vendait. C'est pas ce qu'on recherchait en fait. C'est pas ce que les collectionneurs recherchaient. Mais lui, il a aimé s'exprimer en tout cas à travers le dessin et en particulier à travers le fusain.
Et vous, Niklaus, le Courbet d'avant le travail et après le travail sur ses cahiers dessinés?
Je pense qu'il y a deux choses pour moi. La première, c'est de découvrir cette facette démultipliée de fonctions que Courbet va tirer du dessin. Et en particulier, je dirais, une fonction qui m'a beaucoup intéressé, c'est le calque de transfert. On parle jamais du travail préparatoire de Courbet, parce que ces calques, ce sont des calques utilitaires, c'est-à-dire que c'est un calque qui permet de décalquer une image, de la transférer sur une toile, et ensuite ce calque, on le roule et on le met à la poubelle. Donc il y en reste très peu, et on en connaît deux, dont un qui n'est pas des moindres, puisque c'est un autoportrait. C'est un calque qu'il a fait sur le tableau qui était chez son ami et collectionneur et mécène Alfred Bruyas à Montpellier. C'est l'autoportrait au col rayé qu'il va décalquer pour transposer exactement la même posture, le même col d'ailleurs aussi, dans l'atelier du peintre. Et ce calque est conservé, on ne sait pas où, mais on en connaît l'image et on en connaît l'existence, et ça nous démontre quel a été ce processus d'autocitation de soi-même et aussi de ses amis dans l'atelier du peintre, qui avait été exposé en 1855, donc au pavillon du réalisme, avec aussi les tableaux qui ont servi aux calques qui ont été transférés dans la grande composition qui réunit tous ses amis qui avaient été peints isolément. Ça devait être quelque chose d'absolument saisissant. Ça m'a beaucoup intéressé. Et l'autre chose, c'est que j'ai appris à aimer Courbet, parce que je ne suis pas français, et donc Courbet ne coule pas dans mes veines, j'ai envie de dire. Et c'est une personnalité que l'on apprécie plus facilement, je pense, si l'on est français. Et quand bien même je suis très admiratif et très amoureux de la culture française, c'est quelque chose qui, pour un Suisse, est moins perceptible. Et j'ai d'autres attachements à d'autres artistes qui sont peut-être plus suisses, qui sont plus proches de mon terroir. Et à travers ce travail, j'ai découvert un peu ce qu'il y avait derrière derrière ce qu'on voit habituellement de Courbet, j'ai appris à l'aimer et à vivre à travers lui, en quelque sorte. Et ça, ça a été aussi un très bel apprentissage.
Ouais, je suis d'accord, c'est une personnalité très attachante. On a beaucoup d'amitié pour lui, même quand il est très bête, des fois. On a quand même beaucoup de sympathie pour lui. C'est un être humain, il n'a rien. Mais justement, il n'a pas ce côté formation académique qui est un petit peu glaçant pour cette légitimité d'origine, de classe, de gens qui viennent déjà armés d'une forte... qui sont déjà issus des classes supérieures, et puis qui, etc. Mais enfin bon, ça a toujours été une lutte. Hein. Je pensais, comme j'étais à Orsay, j'étais quand même très impressionné par Manet à côté des autres. J'étais invité à la visite de presse de Berthe Morisot. Et c'est quand même pas du Manet. On peut dire ce qu'on veut, mais on voit la différence et on voit ce que c'est la lutte, etc. Donc on a maintenant toute cette problématique, comme la réhabilitation de Courbet, c'était peut-être pas nécessaire parce qu'il a toujours marché. Il a quand même, il a vendu à l'État même. Il n'y a pas eu de moment de, il n'y a pas eu, il a eu une fortune critique constante, même si Huyck était réservé sur lui, c'est pas quelqu'un qui a disparu de la circulation. Contrairement à Berthe Morisot, dont c'est la première exposition monographique depuis toujours.
Courbet n'a pas disparu, mais il aurait pu disparaître. Ouais. Sans le travail d'un certain nombre de ses proches qui ont fait l'exposition à l'École des Beaux-Arts en 1882, donc 5 ans après sa mort, je pense que sans cette exposition et sans un étalement des ventes de succession sur plusieurs décennies, je pense qu'on aurait pu perdre pendant un certain temps de vue Gustave Courbet et donc aussi perdre un certain nombre d'œuvres qui se seraient égarées à droite à gauche. Il y a l'exemple de l'atelier du peintre qui servait quand même de décor dans un théâtre pendant un certain temps. Ce qui est plutôt inquiétant si on pense à la destinée qu'il aurait pu avoir s'il n'avait pas été retiré de ce théâtre.
Certainement d'ailleurs. La disparition risquée, c'est quand même la Commune. Il y a une césure parce que le premier tableau qui présente un des premiers, l'après-dîner Ornain, est acheté par l'État, si je me rappelle bien. Donc c'est très tôt, on lui achète des tableaux par l'État. Il a des rapports avec l'État malgré sa haine de Napoléon III. Il a quand même des rapports avec la haute société qui lui achète ses tableaux, avec des Bruyas, avec le comte de Choiseul dont il peint les chiens. Voilà, il a des rapports avec ces gens-là. Il sait commercialiser ses œuvres et il sait quand même ménager toutes les personnes qui sont susceptibles de lui acheter des œuvres. Par contre, après la Commune, effectivement, c'est le grand danger. On risque de l'oublier totalement, et c'est effectivement grâce à Champfleury essentiellement qui va prendre sa descente et qui va organiser ses ventes de succession, et à, je dois dire, sa sœur aussi, Juliette, qui donne des œuvres à l'État français, dont l'atelier et d'autres, qui sont quand même les œuvres qui vont rester dans les musées français. Mais le risque, il y a quand même eu, pendant une période, une espèce de désaffectation pour Courbet à cause de ses idées politiques.
Oui, non, je suis d'accord. Je pense à Mallarmé, par exemple, dont la fille a fait la fortune critique. Sans la fille de Mallarmé, pas de Mallarmé, c'est très difficile. Donc on souffre d'un anachronisme, on a beaucoup de peine à réexaminer la réalité du champ tel qu'il était. En plus, c'est masqué par des appellations comme peintre pompier ou des choses comme ça qui empêchent d'affronter la réalité du marché de l'époque, du champ, des hiérarchies. Parce qu'après, cette histoire du réalisme, c'est un après-coup quand même. C'était pas gagné. Il y a d'autres mouvements qui ont existé. Je sais pas, les utistes ne sont pas devenus un mouvement que tout le monde connaît, une chose célèbre.
Là, je crois qu'il faut rendre hommage, quoi. on est en France, mais il faut rendre hommage aux anglo-saxons. Tu évoquais un situationniste qui était Timothy Clark. Clark a contribué largement, avec d'ailleurs un autre personnage de cette époque, qui était Hadji Nicolaou, histoire de l'art et de classe, ou bien Michel Melot, qui est venu parler ici même il y a quelques, années.
Un an et demi.
Voilà. C'est des gens qui ont contribué, et les Américains, les Allemands, Klaus Herding, Linda Nochlin, il y a toute une série de personnages, et Petra Tschou qui a publié la correspondance, qui a fait un travail remarquable, gigantesque, en annotant toute cette correspondance. C'est grâce à ça aussi qu'on parle de Courbet aujourd'hui.
C'est vrai que la correspondance avec ses parents nous le rend extrêmement familier et qu'il écrit pratiquement tous les jours. Donc on a un suivi formidable. Et je pensais aussi, puisque j'étais à Orsay et que je suis quand même monté dans les salles impressionnistes, qu'il aurait pu disparaître parce qu'il n'était pas, on pouvait pas le mettre sur un t-shirt, contrairement à Renoir, au bord de la Marne.
Peut-être à l'exception des châteaux de Chillon. Je suis toujours étonné de jamais avoir vu un château de Chillon sur un t-shirt. Parce que Niklaus évoquait son intérêt pour les lieux pittoresques, lieux touristiques. Simplement, il les transformait. Le château de Chillon, par exemple, les châteaux de Chillon. Il y en a beaucoup qui sont des faux, hein, il faut bien dire, qui sont des copies et des faux. Il y a tout cet aspect de la copie qui est à revoir, qui est en train d'être revu largement. Mais évidemment qu'il ne faisait pas le même château de Chillon que les petits maîtres suisses du 19e ou que Calam, etc. Il présentait quand même de nouveau le problème du cadrage, le problème des orages, de la tempête, etc. Il présentait quand même des lacs Léman qui n'avaient rien à voir avec les lacs Léman des petits maîtres suisses qui étaient la production touristique de l'époque.
Donc on a une forte industrie du faux Courbet là, sur la fin de sa vie.
Énorme. Et là, je pense que...
Il est responsable aussi, non? Il en fait faire certains, non? Il n'y a pas des travaux d'atelier.
Il y a d'un problème au moment où il revient de prison après la Commune et qu'il arrive à Ornan. Il doit faire face à une multitude de commandes parce que ça l'a fait connaître, etc. Et là, il utilise un certain nombre d'amis, d'élèves, Cherubino Pata, Marcel Ordinaire, etc., des jeunes du pays d'Ornans, il les utilise pour préparer ses toiles. Alors évidemment, le problème de la collaboration, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Les peintres ont toujours, depuis la Renaissance, collaboré avec des jeunes qui leur préparent les toiles, qui font un certain nombre de travaux. Donc là, il y a toute une discussion qu'on peut avoir sur cette... Ce que je conteste formellement, c'est que cet atelier qui a eu à Ornan de préparation, de collaboration dans les années 72-73, ce que je conteste formellement, c'est qu'il ait eu la même pratique en Suisse. Les documents montrent que sa correspondance, Elton d'ailleurs, qui passait, et le fait qu'il voyageait beaucoup, qu'il a peint relativement peu, selon moi, pendant cette période de l'exil, fait qu'on a attribué à Courbet des mauvaises copies. Bon, il y a eu aussi des problèmes d'expertise, il y a des instituts d'experts qui ont attribué à Courbet des tableaux qui ne sont pas de lui. Et donc, il y a un gros travail de nettoyage qui doit être fait, notamment pour les œuvres de la période d'exil.
Il y a un très, très warholien, ça me fait penser, sur quand il a des ennuis avec la Commune et qu'il est enfermé pendant un moment, il écrit à ses parents... C'est pas grave, c'est bon pour ma notoriété, ça va faire monter ma cote.
Oui, il a aussi cette phrase formidable qui dit « Mes ennemis feront ma fortune ».
Il a raison, hein, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de caricatures de lui. Je pense qu'on peut sortir un livre aussi gros que le vôtre.
Il existe.
Et on trouve dans sa correspondance, il donne son autorisation aux caricaturistes de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de son image. Il l'écrit, il le dit, il a conscience que c'est bon pour lui.
Jusqu'à la Commune.
Oui, bien sûr.
C'est une césure incroyable. Ouais, ouais. Et donc, tu nous disais aussi au café que tu avais authentifié ce qui est le lieu dit qui est devant l'origine du monde, qui est caché à l'origine du monde. C'est un château.
Ah, oui, bon, là, c'est le problème de la fortune de l'origine du monde.
La force athlétique immense de l'origine du monde.
À un moment donné, elle est rachetée par un Hongrois, Ratvani,
je crois.
Quelque chose comme ça, qui ne veut pas avoir ce tableau sous les yeux en permanence et qui utilise un petit tableau de 1875 fait pendant l'exil qui représente le château de Blonay, qui est un château au-dessus du lac Léman, qui est de la bonne dimension et qui permet d'être fixé sur
une glissière
qui permet d'ouvrir et de fermer pour cacher l'origine du monde. Et ça, c'est le rapport, si on veut, entre les deux. Mais il y a d'autres histoires qui sont rigolotes.
Par exemple, raconte.
Les deux, le sommeil. Le sommeil est exposé pour la première fois en public à la Tour de Paix en 1952. Il y a une exposition qui est une des premières grandes rétrospectives après la guerre de Courbet. Ce tableau était dans la galerie Balletan à Lausanne, parce qu'il avait été acheté, il était dans une famille genevoise, dans un chirurgien qui voulait le vendre. Ce tableau est exposé à la Tour de Paix. Le propriétaire ou le conservateur du musée de Bâle qui visite l'exposition se dit « je vais l'acheter pour le musée de Bâle ». Intervention de l'évêché de Bâle. Et le tableau a été acheté par la ville de Paris pour le Petit Palais.
Et il y avait un impact quand même, toujours. Il y a une espèce de sensualité agressive qui passe bien. Mais enfin, ça a continué justement avec Manet, avec des choses comme ça.
Oui, puis il y a un impact aussi auprès des artistes qui est formidable. C'est-à-dire que la survivance de Courbet tient aussi au fait qu'il a joué un rôle pour beaucoup d'artistes. Et ça permet peut-être aussi d'évoquer un peintre suisse dont on ne parle pas assez en France, qui s'appelle Ferdinand Hodler. Puisque ce sera le sujet de notre prochaine exposition, c'est Courbet et Hodler, et comprendre comment la survivance de Courbet tient à la manière dont Hodler, par exemple, va copier littéralement toute sa stratégie d'exposition, de s'exposer à la critique, de se laisser caricaturer aussi à foison, et d'entreprendre une carrière qui repose sur des jalons stratégiques qui sont ceux de Gustave Courbet. C'est ça qui est très intéressant.
Oui, il fait effectivement une auto-exposition à Genève, à un moment donné, Hodler, une espèce de manifeste.
Oui, c'est-à-dire qu'il a peint un tableau assez scandaleux qui s'appelait La Nuit, qui s'appelle toujours La Nuit, qui est au Kunstmuseum à Berne, et qui est exclu de l'exposition municipale, quand bien même il avait été admis à l'unanimité du jury. Et Hodler va donc louer le bâtiment électoral, exposer le tableau en indépendant, en demandant un franc l'entrée. Il va faire une grande campagne publicitaire, faire passablement d'entrée. Et avec l'argent qu'il récolte, il amène le tableau à Paris, il l'expose au Champ de Mars, ici à Paris, où il va rencontrer un certain succès et les éloges de Rodin et Puvis-de-Chavannes, ce qui a été le premier grand succès de Hodler hors de Suisse.
Et c'est tout à fait pertinent comme rapprochement, parce que ça représente une fellation, en fait. La Nuit d'Hodler, il y a un personnage, il se passe quelque chose sous un drame.
Ah oui, c'est
là.
Donc
on est dans un.
C'est Thévaud qui parle.
On est effectivement dans une volonté de communiquer et de scandale qui est évidente.
Mais Hodler
est un personnage fascinant parce qu'il va faire les deux pôles. Il va faire aussi la représentation nationale. Il va unifier la représentation nationale et il va faire une espèce de personnage de bûcheron qui sera décliné d'une façon très warholienne aussi. Là.
Oui, même jusqu'à
la photographie. On pourrait être de la sérigraphie.
Il y a une stratégie commerciale aussi chez Hodler.
Mais vous reviendrez me parler d'Hodler. J'adore Hodler. Je compte sur vous. Bon, merci, c'était très très agréable de vous avoir ce matin.
Merci.